La chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Nouveau rendez-vous de la programmation municipale Art croisé contemporain au Petit Carré d'Art, c'est ce soir avec la compagnie La Zampa. La Zampa ou l'aventure de deux chorégraphes interprètes, Magali Millian et Romuald Luidelin. Ils ont tout récemment quitté l'Ariège pour s'installer à Nîmes et continuer leur recherche artistique autour du corps et son inscription dans l'espace. En résidence depuis le début de la semaine au Petit Carré d'Art, ils proposent donc un spectacle inédit ce soir autour de la thématique 2011-2012 de la programmation Art croisé contemporain. La fièvre du jeu. Voici quelques minutes de ma rencontre avec Romuald.
C'est toujours dur de définir ce qu'on fait, et surtout en danse contemporaine, parce qu'il y a autant de danse contemporaine que de chorégraphes. Et puis à partir de cette réflexion, on a déjà deux chorégraphes dans la compagnie, donc ça peut changer du tout au tout. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une chose, nous, qui nous intéresse depuis un petit moment, c'est qu'on mène un travail, ou en tout cas une réflexion, autour de la disparition du corps, disparition, quand je parle de disparition, ça peut être l'anéantissement, l'effondrement, c'est pas forcément une disparition morbide, hein, pas du tout justement. Et si on évoque la disparition, on évoque forcément sa reconstruction. Entre ces deux points, pour nous, il y a une forme de défi, en tout cas un défi à l'écriture, une manière pour nous de mettre le corps à l'épreuve et de lui faire avouer... ce qu'il a à l'intérieur, on va dire, très simplement. Mais là, c'est un peu différent, parce qu'on est à Sainte-Afrique, et en fait, on a répondu à une commande, donc de Marie-Josée Nègre, sur le thème La fièvre du jeu, J-E. Et c'est une commande, donc on s'est vraiment plié à cet exercice et à cette contrainte, c'est-à-dire qu'on a, eu 5 jours de résidence, donc vendredi, ça fera 5 jours de résidence. Il n'y avait rien d'écrit avant. Donc 5 jours pour créer et montrer un travail. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de la commande. Donc évidemment, on a réfléchi un petit peu avant, on s'est posé des questions, on s'est dit vers quoi et comment ça peut résonner chez nous et dans ce qu'on fait. Mais on est arrivé dans le théâtre, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et on s'est mis au boulot lundi, voilà, en espérant que vendredi, tout soit fini. Même si je pense que vendredi, on va avoir un... Évidemment, ça tient la route, ce n'est pas le problème, mais on est sur le début de quelque chose, voilà. On est sur cette idée de commande, dans des contraintes de temps, d'espace. Voilà, c'est une commande.
Et du coup, ça vous met dans quel état, justement, d'avoir un temps relativement court, j'imagine, pour travailler ? Ça vous stimule, ça vous...
Comme toutes les contraintes avec présentation à la fin, je vais pas faire les gros bras évidemment dans la pétoche. Créer un travail en 5 jours, c'est pas facile. Et en même temps, on le prend assez légèrement. Mais je pense aussi que ça vient de beaucoup des personnes qui travaillent au Petit Carré d'Art, c'est-à-dire que à la fois Marie-Josée Nègre, moi. En tout cas, c'est une sensation que j'ai, mais je la trouve très courageuse de programmer ce qu'elle programme à Sainte-Afrique et de mener ce travail-là. Donc on se sent accompagné, donc on ne se sent pas en danger, en fait. Oui, on va être en danger sur le plateau. Enfin, c'est surtout Magali qui va être en danger puisque c'est un solo. C'est Magali qui va danser. Mais on se sent accompagné et du coup, je vais dire qu'on se sent un peu protégé. Donc on se sent prêt à mener ce défi en 5 jours de faire un spectacle. Voilà.
Au niveau de la mise en scène, ça ressemblera à quoi ?
Alors, la mise en scène. Est-ce qu'on peut parler de mise en scène pour la danse ? Mais oui, on peut en parler. Ça va être comment ? Écoute, il faut venir. Non, ce que je peux dire, c'est que sur la fièvre du jeu, ça nous a fait rebondir, en tout cas Magali et moi, sur plusieurs petites choses, et notamment sur deux figures. Donc, Calamity Jane... et Marilyn Monroe. Alors, sur Calamity Jane, il y a un livre qu'elle a écrit, puisqu'elle a écrit un livre, je ne savais pas. Donc, c'est les lettres à sa fille. Donc, Calamity Jane avait une fille, et elle lui a écrit des lettres tout au long de sa vie, qu'elle ne lui a pas envoyées. Et elle a demandé qu'on lui envoie ses lettres après sa mort. Donc Calamity Jane, pour faire vite, avait une fille. Elle l'a confiée à un couple d'anglais très riche. En fait, elle a abandonné sa fille. Je pense qu'elle ne voulait absolument pas s'encombrer d'enfants et elle voulait absolument et par-dessus tout garder sa liberté, rester dans les plaines du Far West, continuer à vivre avec les Sioux, se battre, boire, se faire des mecs, mais surtout ne pas avoir de famille. Et en même temps, elle a quand même cette chose où elle va écrire tout au long de sa vie des lettres à sa fille qui vont lui être remises à sa mort. Il y a aussi les écrits intimes de Marilyn Monroe, où on découvre une Marilyn beaucoup plus sombre, mais pas plus sombre dans le sens morbide, mais plutôt introspection. On découvre une Marilyn qui écrit des poèmes, qui a un avis sur la vie, qui se pose des questions sur sa vie, qui sait très bien ce qui se passe autour d'elle, entre l'image qu'on a d'elle, de la blonde pulpeuse, que tous les hommes aimeraient avoir dans son lit, tous ses amants, toute sa vie, on va dire, médiatique, et tout le fantasme qu'elle peut générer. Et en même temps, tout ça, elle le sait, elle le maîtrise, elle s'en amuse, et elle essaye, elle aussi, dans une quête d'absolu, comme elle dit dans ce livre, à plusieurs reprises, d'être la plus stupide possible, la plus idiote, pour se rapprocher le plus près de... Je crois ce qu'elle cherche, c'est une forme de naïveté, s'emparer des rôles qu'on lui propose, voilà. D'être dans la naïveté la plus totale pour être la plus sensible, voilà. Et donc dans ces deux figures, à la fois Marilyn et Calamity, il y a toute cette chose très ambiguë, à la fois ces deux personnes s'amusent de l'image que les gens ont d'elles, en sachant pertinemment que ce ne sont pas, évidemment que l'image qu'on perçoit de ces gens-là ne sont pas, c'est pas ça, quoi. Voilà, il y a autre chose, il y a de la profondeur. On s'est appuyé là-dessus, sur ces écrits, qui nous ont donné, évidemment, qui nous ont donné des idées pour écrire la danse, pour travailler l'espace, mais voilà, on en est là.
Tu dis écrire la danse.
Oui. Écrire la danse, ou alors je pourrais dire écrire le corps, c'est-à-dire, je peux pas dire que dans la Zampa, il y ait une écriture de danse comme on peut le voir dans le ballet classique, par exemple. Avec des contes, sur une musique, qui puisse donner une forme de narration. Par contre, dans ce que l'on fait, et ce qu'on va faire à Sainte-Afrique, il y a un parcours, donc du premier pas qu'on met sur le plateau jusqu'au dernier moment où on va sortir du plateau, il y a un parcours, et ce parcours-là, il est écrit dans le sens où on sait qu'on va du point A au point B. Entre ces deux points, il y a des événements qui vont obliger le corps à des contraintes, on va dire, simplement, qui vont obliger le corps à se transformer, à avouer, à bouger différemment, qui vont petit à petit écrire la danse. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus précis comme ça.
Pourquoi le choix du solo ? Vous êtes combien dans la compagnie et pourquoi il n'y a que Magali sur scène ?
Alors, sur cette pièce, on a fait définitivement le choix que c'était Magali qui allait danser. Alors déjà, on est dans la fièvre du jeu, JE, donc on s'est dit que c'était quand même plus opportun d'être sur un solo. Et ensuite, c'est très compliqué, ça on peut le faire quand on a beaucoup de temps, c'est ce qu'on fait en général sur d'autres pièces, mais d'être à l'intérieur, enfin sur le plateau et à l'extérieur, c'est assez compliqué d'être dans cette schizophrénie, on va dire. Donc pour gagner du temps, on a décidé de se séparer entre guillemets, et donc Magali sera sur le plateau et moi je suis à l'extérieur, même si on continue à chorégraphier tous les deux, c'est-à-dire moi je suis à l'extérieur, évidemment j'ai un peu plus de recul, mais Magali propose aussi de l'intérieur. Pour travailler, évidemment, c'est pas, je suis pas le chorégraphe tout puissant assis au milieu des spectateurs, enfin des gradins, en donnant des ordres.
Et quand tu regardes Magali danser, est-ce que tu danses toi aussi, est-ce que tu la suis dans ta tête?
Ah oui, évidemment, oui, c'est pas je pense pas que ça soit forcément moi qui danse dans ma tête, puisque avant même de décider d'être chorégraphe, dans les moments où j'allais voir des spectacles, où j'allais voir d'autres, enfin les spectacles des autres chorégraphes. Il m'arrivait sur dans les moments que j'adorais, par exemple, de m'apercevoir que j'étais en train de bouger sur mon siège alors que qu'il se passait rien pour moi. Enfin, je veux dire, j'étais assis en train de regarder un spectacle. Et puis cette sensation, je l'ai aussi quand je vais voir un concert. Je peux ressentir la musique. On est debout, on peut se mettre à bouger alors que on est juste en train d'écouter de la musique. Donc oui, quand je regarde Magali, oui, il y a des moments où je danse avec elle. Oui.
Romuald Luidelin de la compagnie La Zampa à découvrir ce soir au Petit Carré d'Art à 20h30. Mio en Jazz lance la saison 2012 avec un concert de blues. Big Daddy Wilson sera sur les planches du Théâtre de la Maison du Peuple à Mio demain soir. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Mio en Jazz présentée par Mathieu Putemans sur Radio Larzac. Et c'est Philippe Ferré qui, vous le verrez, parle de blues aussi bien que de jazz.
On avait fait une première expérience l'année dernière donc, où on s'est rendu compte qu'il y avait un public hein, sur le blues sur Mio et qu'il y avait peu d'offres pour ce public-là. C'est vrai que la musique blues, c'est l'origine de pas mal de musique, le jazz en particulier, le rock et bien d'autres musiques. Et même si parfois on a l'impression que les musiciens de blues évoluent peu, là c'est pas le cas puisque l'artiste qu'on invite est un jeune musicien américain qui vit en Allemagne, qui s'appelle Big Daddy Wilson, et il est sur des sonorités et un style de blues assez original dans le sens où lui est percussionniste. Il fait donc percu, congas et charleston. Et il est accompagné de deux guitaristes, deux guitares acoustiques.
Et il chante.
Et il chante, exactement. Voilà. Donc avec une voix typiquement blues américain.
Là, c'est très classique pour la voix. Voilà. Le reste est assez original, mais l'orchestration...
tout à fait. Et c'est vrai que... ça fait du bien de réécouter un peu ces fondamentaux de la musique qui sont le blues et pour démarrer l'année, il nous semblait intéressant de pouvoir en partenariat avec le théâtre donc inviter cet artiste qui est en tournée en Europe donc au mois de janvier.
Donc on va écouter un morceau, donc petit concert de blues en attendant que les jours rallongent. Ça s'appelle Tumble Ride, c'est le titre de l'album aussi.
Trying to thumb a ride, cause I just got to see my baby one more time. I wrote a letter, but a letter just won't do. That's why I'm trying to make my way back home to you. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Headed down to Memphis, that's where my good gal be. North Carolina ain't got no hold on me. I done quit my job, sold my hound dog too. I'm doing all I can to get back home to you. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Time. I even walk, people, Lord knows I ain't lying. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Well, somebody give me a ride. Hey, man, can I ride a little ways with you? I'll sit in the back. That's all right with me. Where my good gal be. Bought me a house.
Daddy Wilson à retrouver demain sur les planches du Théâtre de la Maison du Peuple à Millau. Et on va achever cette chemise à rayures avec un dernier reportage réalisé par Elsa Decourt. Elle a assisté au vernissage de la nouvelle exposition du lieu dit « Les Sages de l'Inde ».
Voilà, écoutez, je suis Maurice Chaloub, j'habite Aurillac, près de Saint-Rome-de-Tarn. Et je suis là depuis 35 ans, on va dire. Voilà, j'ai acheté une vieille maison, j'étais parisien. Et j'ai quitté Paris et ses banlieues. Et je suis arrivé à Aurillac, avec famille et enfants.
Donc ce soir, vous faites une exposition Les Sages de l'Inde.
Voilà.
Vous avez voyagé là-bas ?
Non, j'ai pas voyagé là-bas, que tout soit clair. J'ai pas encore été en Inde, je suis pas encore allé là-bas. Mais je suis tombé par hasard un jour sur un bouquin fantastique sur l'Inde qui relatait, on va dire, un grand hommage à l'Inde. Et dans ce bouquin, il y avait des photos, des petites photos de personnages qui m'ont vraiment sauté aux yeux, dont j'ai fait des portraits. Et j'ai, en lisant l'histoire de tout ce monde, j'ai appris qui étaient les Sadhus.
Qui sont les Sadhus ?
Alors, qui sont les Sadhus ? Ce sont des gens qui ont quitté la vie sociale de l'Inde, qui se sont retirés, qui vivent d'aumônes, qui vivent de... Enfin, c'est assez particulier parce qu'en Inde, ils sont acceptés complètement, quoi. L'Inde est un pays, peut-être le seul pays au monde, qui a réussi le tour de force de d'intégrer dans la société les gens qui la quittent. Ce sont des gens qui font de l'introspection, qui cherchent la spiritualité. Voilà, donc ils vivent avec presque rien, enfin avec rien, puisqu'ils n'ont rien du tout à eux. Donc ils n'ont pas de logement, pas de bien matériel. Enfin, en gros, c'est ça. Je ne vais pas me raconter toute l'histoire des Sadhus, mais bon, en gros, ils vivent comme ça, quoi. Ce sont des gens qui sont assez étranges, parce que c'est un peu ambigu, quoi, par rapport à la société indienne. Ils ont quitté la société indienne, mais la société les prend en charge quand même. Voilà.
Donc quel est le livre dont vous êtes inspiré ? Les photos, elles sont issues de quel livre ?
C'est un bouquin qui s'appelle Hommage à l'Inde, dont je me rappelle franchement, je ne me rappelle même pas le nom de l'auteur. Hein. Mais il y avait là-dedans beaucoup de reportages sur l'Inde du nord au sud. Quoi, hein. Les Sadhus, eux, vivent plutôt dans le nord de l'Inde.
Les regards sont absolument magnifiques de vos...
Oui, voilà. Alors moi, je me suis attaché beaucoup, beaucoup à leurs regards, quoi. Et voilà, donc, ils sont... Moi, j'ai rajouté un décor derrière chacun, parce que la photo, il n'y avait que le portrait du personnage. Bon. Alors, ils sont soit vers le Gange, parce que c'est le fleuve sacré là-bas, soit au pied de l'Himalaya, parce qu'ils sont dans le nord du pays. Et voilà.
Quelles sont les matières que vous utilisez ? Est-ce que c'est de l'aquarelle, de l'acrylique ?
Non, c'est de l'acrylique. Uniquement de l'acrylique. Voilà, c'est tout. De l'acrylique, peinture acrylique.
Et vous êtes peintre ou c'est pas du tout votre profession ?
Oui, moi je suis plus dessinateur que peintre, moi. J'ai bossé dans la pub pendant très longtemps quand j'étais parisien. Et puis je suis devenu prof de dessin depuis que je suis dans l'Aveyron. Puis maintenant je suis à la retraite, on va dire, hein, mais je continue à dessiner beaucoup, quoi. Et mon travail est plus du dessin, de l'illustration, on va dire apparenté à de la bande dessinée que de la peinture, quoi. Hein. Bon, non, mais je suis devenu fan des portraits maintenant depuis quelques temps. Je fais beaucoup de portraits et donc les portraits c'est à l'acrylique le plus souvent, quoi. Mais c'est complètement différent de mon travail d'illustration ou de dessin, quoi.
Portrait de sage de l'Inde de Maurice Chaloub à voir au lieu dit jusqu'au 4 février. Et le livre qui a inspiré le dessinateur s'appelle effectivement Hommage à l'Inde d'Olivier Folmy, paru aux éditions de La Martinière.